Alors, donc, vous allez assister à ce qu'on appelle une joute de traduction. Mais bon, ça va pas être évident si vous voyez pas le texte. Vous allez avoir un peu plus de mal à suivre que d'habitude parce que voilà. Donc, je pensais avoir un grand écran où le texte serait projeté. C'est pas le cas. Donc, est-ce que ceux qui sont devant au moins peuvent lire ce qu'il y a écrit? Il y en a qui, jusqu'à quel rang vous arrivez à lire? Bon, il y en a qui arrivent à lire quand même. Bon. Alors, peut-être que les photocopies, il faut que vous les ayez au fond. Voilà, ça va être plus simple. Bon, alors donc, moi je fais partie d'une association de traducteurs qui s'appelle l'ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France. Bon, c'est une association qui représente les traducteurs professionnels et qui essaye de les mettre en lumière, de défendre leurs intérêts et de montrer un petit peu ce qu'est notre profession. Alors pour ça, donc, on fait des joutes de traduction, on organise ça dans différents festivals, souvent des festivals littéraires, pour essayer de décortiquer un petit peu le travail du traducteur. Bon, alors, dans les littératures de l'imaginaire, vous êtes quand même habitués aux traductions. Donc, vous savez que, selon le traducteur, un même auteur traduit par deux traducteurs différents, ça ne va pas donner le même texte, ça ne va pas donner la même tonalité. Donc, on dit que le traducteur, il est un petit peu comme un cuisinier qui fait une recette, et selon le cuisinier, ça ne va pas donner la même recette, ou un musicien qui interprète une partition, et selon la façon dont il joue, ça ne va pas donner la même chose au final. Donc, pour la traduction, ça va être la même chose. Donc, vous allez voir Michael Cabon et Sarah Doc, je leur ai donné le même texte. Alors, en fait, l'idée de base, c'était de partir sur un texte qui n'a jamais été traduit encore. Donc, on a choisi un texte d'une nouvelle de Frank Herbert qui s'appelle « Ceasefire ». Donc, vous voyez le titre là. C'est une nouvelle qui a été écrite en 1958, qui a été publiée dans Astounding Science Fiction Magazine. Donc, il n'était pas encore connu, Frank Herbert. Enfin, il n'avait pas écrit Dune, en tout cas. Donc c'est une petite nouvelle je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire parce que vu que vous n'allez pas pouvoir tout suivre. Donc c'est un chimiste qui se trouve sur un champ de bataille dans l'Arctique. Il y a une guerre, on ne sait pas exactement ce que c'est comme guerre, ça se passe en 1972, donc comme ça a été écrit en 58, c'était de l'anticipation. Donc c'était une guerre, on ne sait, peut-être contre des extraterrestres, mais on ne sait pas exactement. Et il se trouve dans un abri et il doit surveiller les ennemis. Et puis comme il est chimiste, il réfléchit à des choses et il pense à un dispositif qui va servir à annuler toutes les armes à détonation. Et donc il essaye de faire, voilà, il explique son histoire, il appelle ses supérieurs, il explique tout ça. Ils vont faire des tests et ils vont tester ce dispositif. Donc voilà. Donc là, c'est même pas le début de la nouvelle hein, pour la traduction. Moi, je leur ai donné un passage qui est à partir du moment où ils font le test. Voilà, tout au départ, il a expliqué son projet, il a eu du mal à faire passer son projet auprès des supérieurs de la hiérarchie militaire, etc. Donc le passage qui a été traduit commence au moment où ils vont faire le test de cette traduction, de ce détonateur. Alors, je vais quand même vous présenter Sarah et Michael, que vous connaissez peut-être pas quand même.
Hein? Est-ce qu'on se connaît mutuellement?
Non, vous connaissez, mais oui. pour le public. Oui. Donc, Sarah, elle est auteure, traducteur, journaliste, ou peut-être tu peux te présenter toute seule, c'est peut-être plus ça.
Je crois que la seule chose que je n'ai jamais faite dans l'imaginaire, c'est l'illustration.
Et Michael.
Et moi, je n'ai jamais fait que de la traduction.
Voilà. Alors, la différence entre eux, enfin bon, il y en a d'autres, hein, mais comme traducteur, c'est que Michael, il a été traducteur technique oui. avant d'être traducteur littéraire. Et Sarah, elle est auteure en plus d'être traducteur littéraire. Donc, ça donne quand même deux approches différentes au final. Donc, on va regarder ça. Alors, bon, moi, ce que j'avais fait, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir, je pense que non, j'avais décortiqué le premier paragraphe pour vous montrer tout ce qu'il y avait de commun et tout ce qu'il y avait de différent. Mais bon, je ne sais pas trop ce que vous voyez là-dedans. Donc, en fait, j'avais surligné en vert ce qui était resté pareil. Moi, déjà, il faudrait que j'ai mon texte et je ne l'ai pas. si je l'ai là. J'avais mis en jaune tout ce qu'ils avaient comme différence. Bon, donc je vais peut-être vous lire le texte anglais et puis on va regarder. Ça va peut-être être plus simple comme ça pour ceux qui ne voient pas. Alors, donc, ceasefire. Je vous lis le premier paragraphe. Hulser was to look back on the 5 weeks of the first phase in Operation Big Boom as a time of hectic unreality. Corps ordered the project developed in General Savage's reserve area after a set of preliminary plans had been shipped outside. The thinking was that there'd be less chance of a security leak that close to a combat zone, and that the vast barrens of the reserve area offered better opportunity for a free sight of things that could detonate mysteriously and lead to unwanted questions. Bon. Est-ce que vous parlez tous anglais? Oui, quand même, j'imagine, un minimum. Donc, peut-être vous pouvez lire votre traduction chacun.
Ça serait le mieux.
Du coup, ça va être le plus simple. Et puis après, on va essayer de décortiquer.
Ouais. Sarah, à toi l'honneur.
Oui. Oui, c'est vrai que vous
l'avez. Hulser devait se souvenir des 5 premières semaines de la première phase de l'opération Big Boom comme d'une période d'irréalité mouvementée. Le corps avait décidé de développer le projet dans un périmètre de la réserve du général Savage après une série de plans préliminaires. L'idée était qu'il y avait moins de risques de fuite dans un lieu aussi proche de la zone de combat et qu'une explosion sur le vaste site stérile avait peu de chances de déclencher des questions indésirables.
Alors, Michael.
J'enlève mes lunettes puisque je me fais vieux. Hulser garderait des 5 semaines de la phase initiale de l'opération Ramdam le souvenir d'une période d'agitation irréelle. Après avoir mis à l'abri la première ébauche du projet, l'état-major ordonna de le mener à bien sur le terrain d'entraînement du général Savage. Les risques de fuite seraient moindres si près d'une zone de combat, estimait-on, et les vastes étendues désertes du camp permettrait de dénicher sans peine un espace dénué de matériel susceptible d'exploser de façon mystérieuse en suscitant des questions indiscrètes.
Bon, alors déjà, ils ont le titre tous les deux, vous avez vu. Il y en a un qui l'a écrit avec des traits d'union et l'autre qui l'a écrit sans traits d'union. Alors je ne sais pas si le sens est différent ou pas. Oui, donc peut-être vous pouvez...
Disons, pour moi, avec traits d'union, c'est l'expression « un cessez-le-feu ». Et sans les traits d'union, c'est une manière de cesser le feu.
C'est un impératif.
C'est un impératif.
Nous sommes bien d'accord.
Vous êtes bien d'accord.
Le petit Robert aussi.
D'accord. Alors après, la deuxième chose moi, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu leur traduction, c'est Operation Big Boom. Alors Sarah l'a laissé Opération Big Boom.
Moi, je ne voulais pas laisser le titre anglais. C'est vrai que les opérations militaires, souvent, gardent le terme, on garde le terme anglais. Je n'avais pas envie, notamment parce que pour jouer le jeu de l'exercice, je voulais proposer autre chose. Je me suis creusé la tête avec des badabooms, mais c'est plutôt une idée de dégringolade. Pif, paf, enfin, toutes les onomatopées. Et je me suis dit, Ramdam, après tout, bon, voilà. Ça a au moins le mérite d'être amusant.
Et alors, toi, pourquoi tu as décidé de le laisser tel qu'il était?
Parce que les opérations militaires gardent généralement leur titre original, mais aussi parce que c'est une habitude que j'ai avec les éditeurs avec lesquels je travaille, qui est de garder certains termes, dont particulièrement les titres et ce genre de termes-là, dans la version originale.
La remarque, c'est vrai que Big Boom, en plus, ça évoque Big Bang, et voilà. Voilà, oui.
C'est évocateur pour un lecteur français. Ouais. Boom, boom, ouais, c'est compréhensible.
Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, oui, je voulais vous demander comment vous abordez un texte tous les deux quand vous commencez à traduire un texte. Comment vous faites vous? Est-ce que vous le lisez en entier? Vous l'abordez petit à petit? Est-ce que vous avez une approche cibliste, sourcière?
Oui, pour une nouvelle, c'est évident que on parle personnellement. Oui, une nouvelle, je la lire intégralement et même plusieurs fois en l'étudiant. Ce sera pas forcément le cas pour un roman. Un roman dont je connais très bien l'auteur, dont j'ai traduit plusieurs romans. Là, je vais attaquer directement. Je vais peut-être le feuilleter pour voir de quoi ça parle. Un auteur que je ne connais pas, je vais évidemment lire le roman en entier, ne serait-ce que pour accepter ou pas le projet. Ouais. Mais la nouvelle, oui, je l'ai lue intégralement avant. L'approche sourcier-cibliste, je me considère plutôt comme un cibliste par idéal. Donc sourcier, c'est celui qui va être très proche du texte anglais, cibliste qui va privilégier le texte français, le rendu en français. Donc plutôt cibliste par idéal, mais dans les faits, ça dépend des phrases, ça dépend du contexte.
Je lis systématiquement les textes avant, pour éviter les mauvaises surprises, pour éviter qu'un terme que je commence à traduire d'une certaine manière se révèle au bout de 15 chapitres, signifiait totalement autre chose. Et puis, parce que c'est une manière aussi d'entrer dans le texte, d'en comprendre le sens, d'en comprendre la musique, de déjà voir, ok, là, il va falloir que je fasse des recherches, là, j'ai une citation, là, j'ai ceci, me préparer avant. Et comme Michael, je suis presque autant sourciste que cibliste. J'aime rester le plus proche possible, j'aime aussi apporter le texte au lecteur français. Et il y a une dimension supplémentaire, c'est que j'ai une formation de journaliste, donc j'ai une formation à la concision. Et j'ai donc essayé au maximum de trouver la traduction la plus précise et la plus courte,
la plus économe,
et la plus économe des termes et des expressions qui sont utilisées.
D'accord. Bon, alors du coup, ce que j'ai surligné un vers, ce qui est resté la même chose dans les deux traductions. Alors en fait, c'est quand même assez simple, c'est les noms des personnages, parce que ça, bon ben voilà, hein, ils vont pas changer. C'est des mots très simples comme projet, project, projet, phase, période, vous voyez, des choses comme ça, donc General Savage. Ils ont traduit de la même façon Security Leak, ça oui. Risque de fuite. Ils ont traduit zone de combat de la même façon. Et puis, c'est à peu près tout. Et explosion, voilà, oui. Parce que, alors, pourtant, c'était detonate en anglais. Donc, vous n'étiez pas obligé de mettre explosion. Vous auriez pu mettre détonation. Oui, mais là, vous avez choisi tous les deux explosion. Et en revanche, le reste, ben, c'est tout différent. Donc, par exemple, Michael, il a utilisé le verbe garderait. Ulcer garderait des cinq semaines de la phase initiale de l'opération Ramdam le souvenir d'une période d'agitation irréelle. Et Sarah devait se souvenir. Donc, en fait, vous n'avez pas pris le même temps. Bon, c'est ça la cuisine des traducteurs, en fait. Hein, c'est qu'on essaye de, on va essayer de voir en détail pourquoi. Alors, en anglais, c'était was to look back. Donc toi,
là je suis beaucoup plus sourciste.
Voilà, tu as suivi davantage. Et alors pourquoi toi tu as utilisé le
conditionnel? C'est une habitude quand on parle de comment là il parle de ce qui se passera après. On a un texte qui sera traduit en ce qui me concerne au passé simple, et on parle de ce qui se passera ensuite. Donc là j'utilise un conditionnel.
D'accord. Donc c'est des habitudes.
Ah, oui, c'est vraiment une habitude. Ouais.
D'accord. Alors ensuite. Bah, c'est pareil aussi pour le temps. Alors, si, il y avait aussi corpse, voilà, que vous n'avez pas du tout traduit de la même façon. Alors, toi, tu as gardé le corps. Et toi, tu as traduit état-major.
Oui, puisque pour moi, c'est pas. Donc, le corps, l'unité, l'armée, c'est pas l'armée dans son ensemble qui prend la décision. Pour moi, c'est l'état-major qui prend la décision. Mais bon, les deux se défendent.
Et alors, toi, pourquoi tu as choisi le corps?
En pensant justement. Différent, sans dire en pensant à un corps d'armée particulier.
D'accord. Donc vous voyez qu'en fait, le traducteur, quand il fait des choix de traduction, hein, donc il doit interpréter le texte. Et il ne les interprète pas de la même façon tous les deux. Bon, alors on va passer à un autre passage que celui-là au début. Je pense que vous avez compris l'exercice, que chacun voit les choses différemment. Donc maintenant, on va passer. À la page, alors, 3, 4, où ils vont commencer le test lui-même. Alors, attends. Donc, voilà, sur ceux qui ont des photocopies, c'est pas évident que je m'y retrouve, moi, dans mes trucs. Ah. Vous allez passer à la page 3. Et moi, je n'y arrive pas, alors. Voilà. Voilà. Alors, on commence, c'est déjà sur place, le général Savage. Je vais peut-être vous faire pareil, alors vous lire le passage en anglais, et puis vous allez lire, alors... Qui est, toi ? Voilà, déjà sur place. Alors, General Savage, là, c'est plus la description, en fait, de... Voilà, donc ils sont sur le site, et ils vont commencer à faire le test. General Savage already was on the scene, talking with a stranger who had arrived that morning under an impressive air cover. The stranger had worn civilian clothes. Now he was encased in an issue parka and snow pants. He didn't look or act like a civilian, and it was noted that General Savage addressed him as Sir. Alors, Michael, vas-y, lis-nous ta traduction.
Déjà sur place, le général Savage s'entretenait avec un inconnu arrivé le matin même sous un impressionnant dispositif de protection aérienne. Après s'être présenté en tenue civile, le nouveau venu portait désormais la parka et le pantalon arctique réglementaire. Il n'avait ni l'allure ni le comportement d'un civil. Du reste, Savage n'avait pas manqué de le saluer.
Alors Sarah...
Le général Savage était déjà sur place. Il discutait avec un inconnu arrivé ce matin-là, sous une impressionnante couverture aérienne. L'anonyme portait alors des vêtements civils. Il était à présent vêtu d'une parka réglementaire et de pantalons de neige. Il ne ressemblait pas à un civil et ne se comportait pas comme tel. On pouvait aussi remarquer que le général l'appelait « monsieur ».
Alors, là, ce que je voulais voir dans ce passage-là... En fait, c'est quand il y a un stranger, qu'ils ont d'abord appelé tous les deux un inconnu. Et ensuite, the stranger had worn civilian clothes. Alors, Michael, il a dit le nouveau venu. Et Sarah, elle a dit l'anonyme. Donc, en fait, ça raconte pas, c'est pas tout à fait... Oui, vous voyez pas la chose de la même façon, quoi. Ensuite, ce qu'il y a aussi, qu'on peut remarquer, c'est que, donc, à un moment... À la fin du paragraphe, and it was noted that General Savage addressed him as Sir. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'en anglais, on peut faire des répétitions plus facilement qu'en français. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des trucs de traducteurs comme ça où on est obligé d'essayer d'éviter les répétitions, d'essayer d'éviter les verbes plats, d'essayer de varier les mots dans les dialogues, etc. Donc là, du reste, Savage n'avait pas manqué de le saluer, et Sarah, le général l'appelait monsieur. Donc vous voyez, ils sont obligés de faire des petits choix comme ça, et chacun fait son choix un peu différent. Alors après, il y avait un autre...
Ouais, si tu permets,
vas-y.
J'aimerais justifier mon choix de pourquoi il le salue ou pas. C'est que là, on hésite, on ne sait pas si c'est un civil ou un militaire. Or, dans l'armée, alors je suis désolé, on appelle monsieur trois genres de personnes. Ça s'adresse aux enseignes dans la marine, aux maréchal de France et aux civils. Donc si Savage avait dit monsieur à cet inconnu, ça voulait dire qu'il était l'un des trois. Donc il y avait de fortes chances que ça soit un civil.
Et je ne connais pas aussi bien... les usages militaires que Michael.
J'ai un avantage et un inconvénient sur Sarah, c'est que j'ai fait mon service militaire.
D'accord.
Et que je suis aussi partie du principe que c'était une armée américaine et que donc on utilisait les termes qu'utilisent les militaires américains.
D'accord.
Donc, en fait, pour toi, c'est un militaire et pour toi, c'est un civil, finalement.
Non, j'entretiens le doute.
Ouais.
Enfin, oui, on ne sait pas qui est ce personnage. J'ai imaginé que ça pouvait être un haut personnage de l'État, par exemple le président des États-Unis. J'ai encore un doute, on ne sait pas. Hein. Et effectivement, un militaire, en général, saluerait le président des États-Unis.
Oui, mais le soldat, il saurait si c'était quand même...
C'est ça qui me gêne. Ouais. Mais on ne sait pas jusqu'au bout. Hein.
Oui, c'est vrai.
Donc ça peut être un haut personnage de l'État que ce soldat ne connaît pas.
Ouais, ouais.
Alors que dans l'armée américaine, sir, monsieur, c'est un supérieur, qu'il soit militaire ou pas.
D'accord. Non, mais comme quoi, voilà, il y a des interprétations. Alors ensuite, il y avait un... J'arrive pas à retrouver. Moi,
et pendant que Paola cherche, oui. du coup, moi j'ai gardé les usages français. Par habitude, je donne les équivalents militaires français. Ça va marcher pour les grades aussi.
C'est zippo. Non, mais parce qu'à un moment, il parle d'un briquet.
Oui, c'est 4 et 5.
Bon, d'accord. Oui, mais c'est pas la même numérotation sur le texte que tu as toi. C'est ça le problème. Alors, vous, il faut que vous alliez, oui, page 4. Bon, moi, je le vois. C'est après Me Tarzan. Oh, je sais plus. C'est dur de me retrouver. Alors, le Chrome Light. Alors, ouais, page 4. Dans ceux qui ont des textes, c'est page 4. Alors, là, c'était. C'est drôle parce que vous avez traduit tous les deux par Zippo, alors qu'en anglais, c'est juste Chrome Lighter. Donc pourquoi est-ce que c'est Zippo, forcément ?
On en parle, on lit pas le texte ?
Si, on va lire le texte. Oui, c'est vrai que c'est plus simple.
Je veux pas raison. Prendre ta place.
Non, mais tu as raison. Alors, the lieutenant froze to random attention, saluted. Yes, sir, colonel. Page took a cigarette from his pocket. Let me have your cigarette lighter, please, lieutenant. Yes, sir. The lieutenant fumbled in a pocket, withdrew a chrome lighter, handed it to Page. Colonel Page took the lighter in his hand, looked at it for a moment, hurled both lighter and cigarette out into the snow. The lighter landed about 60 feet away. Alors.
Le jeune officier se mit au garde à vous, raide comme un piquet, et salua. Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Page sortit une cigarette. Passez-moi votre briquet, je vous prie. Tout de suite, mon colonel. Le lieutenant fouilla dans sa poche, en extirpa un zippo qu'il remit à son supérieur. Page s'en empara, l'examina un instant, puis le jeta dans la neige avec la cigarette. Il atterrit à une vingtaine de mètres.
L'officier se mit au garde à vous, salua et répondit. Oui, mon colonel. Page sortit une cigarette de sa poche. « Donnez-moi votre briquet, lieutenant, s'il vous plaît. »« Oui, monsieur. » Le lieutenant fouilla une de ses poches, en retira un zippo chromé qu'il tendit à Page. Le colonel prit l'objet, le regarda un instant, puis le lança avec la cigarette dans la neige. Le briquet atterrit quelques 20 mètres plus loin.
Donc voilà, en anglais, il ne parle pas de zippo, il parle de chrome lighter. Et tous les deux, vous l'avez traduit par Zippo.
Sans doute pour éviter une répétition.
Pour éviter une répétition, parce que généralement, en tout cas, dans l'armée américaine, les soldats ont généralement des Zippo.
Donc c'est une marque, mais en français, un Zippo, on voit tout de suite le briquet avec le petit.
Voilà, c'est spécifique. Ça ne peut pas être un Dupont. Ça ne peut pas être un briquet de luxe. Or, le Zippo est le briquet rechargeable le plus courant.
C'est sûr que ça doit être ça. Mais c'est parce que, justement, nous, on pense forcément à ça. Oui, c'est ça que je voulais faire remarquer. Mais j'ai trouvé ça marrant que vous l'ayez traduit tous les deux comme ça, parce que vous auriez pu mettre un briquet chromé ou pas. Alors ensuite, je voudrais voir un passage où il y a du dialogue. Ouais, pareil. Alors si, non, là, il y avait autre chose aussi. Ça, c'est drôle aussi. Alors, c'est page... Alors, je vais vous lire juste la phrase là. A tense stillness came over the people in the shed. Page 6.
Juste cette phrase là.
Oui, juste cette phrase là, parce que là il y a un truc de polysémie que vous n'avez pas traduit pareil justement.
Un silence tendu s'installa parmi les observateurs réunis sous l'abri.
Une immobilité tendue s'empara des observateurs.
Voilà. Alors, non, mais ce qui est, vous voyez, il y a stillness, Donc ça, c'est de la, on peut l'interpréter de différentes façons. Pour Michael, c'est le silence, et pour Sarah, c'est l'immobilité. C'est pour vous faire remarquer que voilà, le traducteur doit aussi interpréter la polysémie des textes anglais et donc s'imaginer quand même quel est le texte. Alors après, on va passer donc à au moment où ils vont commencer à faire l'expérience. Ou même avant, tiens, on va rester là, sur ce passage-là, toujours page 6. La description d'un personnage. Alors, je vous le lis en anglais. Seen close up, donc là c'est l'étranger, l'inconnu, celui qu'on ne sait pas qui c'est, qui arrive sur le site. Seen close up, the other man gave the same impression of hard competence that radiated from General Savage, only more competent, harder. His cheekbones were like two ridges of tan rock beneath cavernous sockets, brooding dark eyes. Alors, ben Sarah, tiens. Allez.
De près, l'homme donnait la même impression de compétence solide qui irradiait du général, plus compétent encore, plus dur. Ses pommettes ressemblaient à deux arêtes aiguës sous ses orbites creusées et ses yeux sombres et soucieux.
Vu de près, il dégageait la même impression de compétence indiscutable qui irradiait du général, mais en plus incontestable encore. Ses pommettes figuraient deux crêtes de roche brune sous les orbites caverneuses de ses yeux noirs menaçants.
Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme différence là, entre vous deux? Déjà, pareil aussi pour brooding, vous ne l'avez pas traduit de la même façon, donc le dernier mot. Donc pour toi, c'est des yeux menaçants.
Oui, j'ai vu ça plus tôt. Souvent, il y a une part d'interprétation. On n'est pas forcément le nez dans le dictionnaire.
Non, voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Et toi, c'est des yeux soucieux. Ouais. Alors que là, c'est un terme qui peut vouloir dire les deux, effectivement. Bon. Et alors ensuite, je voulais passer... Aussi, oui, alors la façon, ce qui était différent dans vos deux traductions aussi, c'est la façon dont le général parle à cet étranger, justement. Ce monsieur qu'on ne sait pas si c'est un civil ou un militaire. Voilà. Et à chaque fois, on voit que vous ne l'imaginez pas de la même façon parce que vous faites pas, le général ne s'adresse pas à lui de la même façon dans vos deux traductions. Alors, bon, mais là, il y a un exemple, page 7. Toujours. Alors, attends. Oh, je suis désolée, hein, les manipulations, c'est pas. Alors, the visitor 6-7. Hein. The visitor spoke, and his voice came out with a quality like a stick dragged through gravel. It was explained to me that the theory being correct, the projector will work on any petroleum fuel, including coal. Yes, sir, said Savage. It is supposed to ignite coal. We have a few lamps in a sack to one side. You can't see it because of the snow, but our instruments will tell us which of these things are affected. He glanced at Ulster, if any. Alors, Michael.
Allez, je commence.
Vas-y.
Le visiteur prit la parole d'une voix évoquant du gravier remué du bout d'un bâton. À ce qu'on m'a expliqué, si la théorie se vérifie, alors ce projecteur sera efficace sur n'importe quel hydrocarbure, y compris le charbon. C'est exact, répondit Savage. Il devrait être capable d'enflammer du charbon, en effet. Nous en avons mis quelques morceaux dans un sac sur le côté. On ne le voit pas d'ici à cause de la neige, mais nos instruments nous indiqueront quels matériaux auront été affectés. Il décocha un regard à Alsa. S'ils le sont.
L'invité prit la parole et sa voix avait le son rocailleux d'un bâton traîné dans le gravier. On m'a expliqué que, si la théorie est correcte, ce projecteur pourrait fonctionner sur tout type d'énergie fossile, y compris le charbon. « Oui, monsieur, répondit le général. Il est censé enflammer le charbon. Nous en avons quelques morceaux dans un sac sur le côté. Vous ne le voyez pas à cause de la neige, mais nos instruments pourront nous dire quel carburant a été affecté. » est affecté. Il se tourna vers Ulster. S'ils le sont.
Bon, alors voilà, ça, c'est pour, bon, là, il y a un exemple où lui, donc, yes, sir, il dit en anglais. Donc, toi, tu lui fais toujours dire monsieur, à chaque fois qu'il s'adresse à lui, toujours c'est monsieur. Et toi ?
Oui, mais toujours la même raison, il ne peut pas lui dire monsieur, d'après mon raisonnement. Et donc, il fallait quand même rendre l'esprit de déférence qu'il y a par rapport à son supérieur. Donc, je l'ai fait par des termes obséquieux, en fait. Il se met à plat ventre devant lui. Ah, oui, donc, il en rajoute, oui, oui, c'est exact.
Oui, voilà, ouais. Oui, il en rajoute, mais on voit qu'il ne le considère pas.
C'est pas n'importe qui.
On ne sait pas qui c'est, quand même. Voilà, qu'il ne lui parle pas comme un militaire à un militaire.
Tandis que moi, j'ai gardé en tête le fait que ce sont des Américains. Donc, voilà, et sa déférence passe par monsieur, et en même temps une plus grande familiarité entre les deux.
Alors après, donc voilà, là, ils vont commencer à lancer le test lui-même. Alors, il dit, Savage turned to the colonel. Are we ready, Ed? Yes, General. He glanced at Hulser, nodded. Let's go, Larry. Give it power. Là, c'est ce passage-là. Alors, vous le trouvez ou... Mm-hmm. Ben, vas-y, alors, Sarah. Ouais, c'est juste après. Oui. Ouais.
Savage se tourna vers lui. Sommes-nous prêts, Ed? Oui, mon général. Il regarda l'inventeur et hocha la tête. Allons-y, Larry. Envoyez la sauce.
Savage lui lança « Sommes-nous prêts, Ed ?»« Oui, mon général. » Il adressa un signe de tête à Hulsa. « C'est parti, Larry. Activation. »
Alors, pourquoi... Est-ce que vous pouvez expliquer là, comment vous avez traduit ça, vous ?« Let's go, Larry. Give it power. » Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces formulations-là ?
Alors, là-dessus, je rejoins Sarah. C'est qu'il faut quand même rendre le fait que ça se passe dans l'armée américaine. Donc, j'emploie les équivalents français par convention, mais j'essaye de montrer quand même qu'on est dans l'armée américaine, donc on emploie beaucoup les prénoms, ce qui n'arriverait jamais dans l'armée française.
Ah oui. Que tu l'as fait appeler Larry, mais entre parti Larry, ah, allons-y Larry, envoyez la sauce, activation.
Oui, alors je ne sais plus l'anglais.
Give it power.
Oui. Je n'ai rien à dire, votre honneur. Non, souvent, bon, on a une formulation. Ouais.
Voilà, pour moi, give it power avait beaucoup plus un sens envoyer la sauce, un sens plus simple, moins formel, moins technique.
D'accord.
Alors après, il y a un autre truc de dialogue aussi. Alors celui-là, c'est... Page 8, donc c'est juste après. Voilà. Donc ils ont fait le test, ils ont vu que ça a fait exploser effectivement tous les hydrocarbures, le charbon, les allumettes, etc. Enfin tout. Et toi, c'est page 9. Page 8-9. Alors effectivement. Début de la page 9. Alors, steam and dust hit the place where the explosive had been. The gravel voice of the visitor spoke behind Hulser. Well, there goes the whole shooting match, General, and I do mean shooting. Is that what we were... It's what we were afraid of, sir, said Savage. But there's no help for it now. He sounded bitter. Alors, qui le lit d'abord? Le sien.
Ça va ? Okay.
Fumée et poussière cassaient l'endroit où s'étaient trouvés les carburants. La voix rocailleuse du visiteur prit la parole dans le dos de l'inventeur. Eh bien, voilà un sacré concours de tir, et je veux bien dire tir. C'est ce que nous craignons, monsieur, répliqua le général. Mais nous n'y pouvons rien à présent. Il avait l'air amer.
À la place des charges, ne régnait plus qu'un nuage de vapeur et de poussière. La voix rocailleuse du visiteur se fit entendre derrière Hulsa. « Eh bien, général, c'est la fin des haricots. Et des pruneaux, si j'ose dire. »« C'est bien ce que nous craignons. Il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. » Il avait l'air déçu.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait pour, voilà, pour choisir ça? There goes the whole shooting match, General. And I do mean shooting. Parce que là, vos deux traductions sont très différentes, en fait.
Sarah?
Je crois que tu as mieux compris l'expression que moi, en fait, tout simplement.
Oui, en fait, il y a un double jeu de mots. Je vais reprendre le texte anglais. Shooting match. Tout seul, ça veut dire tout le Bataclan, tout le two-team. There goes the shooting match, ça veut dire bah, c'est fichu. Et en plus, et, donc on a ça. Ça se passe effectivement dans un champ de tir. Et le personnage insiste sur le mot shooting pour dire que bah, voilà, on parle bien d'armes. Donc bah, il fallait rendre ça. Et j'ai trouvé cette solution. Je ne sais pas si j'aurais osé la proposer à un éditeur. Mais j'espérais que ça vous fasse au moins rire.
C'est le coup où tu es plus familier que moi,
ouais.
Parce dans que la c'est relation pas, entre les deux.
C'est pas du tout dans le ton. Le personnage dirait pas ça.
Tu crois, remarque, c'est l'inconnu.
Oui, mais ouais. Donc c'est la réserve que j'ai sur ce choix. Ça, mais qui m'a fait rire. Voilà.
Toi, t'es restée plus sérieuse. Voilà, on va dire. D'accord. Alors ensuite il y avait alors juste un peu plus bas dans la même page 8 donc où alors là c'est le Hulser, donc le caporal Hulser, c'est lui l'inventeur en fin de compte. On va lire le passage. Page has hurried along the line of recorders, was checking each one. The significance of the lieutenant's antics suddenly hit Hulster. Matches. He got his spare matches after losing his cigarette lighter. Donc il pense dans sa tête. Alors, qui va le
problème, c'est que t'as pas... Attends.
Page 8.
Oui, mais il aurait fallu... On comprend pas.
Matches. Oui, t'as raison. Alors, on va lire le début, oui. Alors, Hulser was struck by bitterness in both voices. He turned, became conscious that the lieutenant, whose pages had reprimanded, was beating at a flaming beast pocket, face livid. The people around him were laughing, trying to help. Page had buried along the line of recorders, was checking each one. The significance of the lieutenant's antics suddenly hit Hulster. Matches. He forgot his spare matches after losing his cigarette lighter. Donc tout à l'heure, il lui avait jeté son briquet, le général, parce que ça risquait d'exploser, donc il voulait pas qu'il le garde sur lui. Et en fait, il avait gardé quand même ses allumettes, qui ont explosé. Donc,
Hulser était en train de faire brûler. Frappé par la déception des deux hommes. Il se tourna et remarqua que le lieutenant que Page avait réprimandé frappait sa poche de poitrine enflammée, le visage livide. Les gens autour de lui riaient, tentaient de l'aider. Le colonel se précipita vers les enregistrements et les vérifia un à un. La raison de la réaction du jeune officier frappa Hulster, ses allumettes. Il avait oublié ses allumettes après avoir perdu le briquet.
Hulster s'étonna de percevoir la même amertume dans la voix des deux hommes. Il se retourna. Le lieutenant que Page avait réprimandé se tapotait une poche de poitrine enflammée, le visage livide. Autour de lui, des observateurs hilars cherchaient à lui venir en aide. Page s'était précipité sur l'alignement d'enregistreurs pour les examiner un à un. Le sens des singeries du lieutenant frappa soudain Hulser. Ses allumettes, il a oublié ses allumettes de secours après la confiscation de son briquet.
Alors, moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai lu, ça, c'est que toi, tu as utilisé le passé composé. Donc il est en train de penser en fait, hein, le personnage. Il a oublié ses allumettes de secours après la confiscation de son briquet. Et toi, tu as utilisé le plus que parfait. Ses allumettes, il avait oublié ses allumettes. Alors pourquoi vous avez choisi ces temps-là et qu'est-ce que ça donne comme différence en fait?
Dans mon cas, je me suis dit, là c'est lui qui pense ça. Donc on est dans le présent, on est dans l'immédiateté. Donc passé composé.
Et quand c'est le passé composé, quand c'est le plus que parfait,
c'est une réaction tardive.
Moi, je trouvais que ça donnait un point de vue extérieur ou intérieur. Mmh. C'est-à-dire que c'est soit on a le point de vue du personnage, toi, tu as le point de vue du personnage. Ouais. Et toi, tu as le point de vue du lecteur ou du narrateur. Et c'est vrai que ça donne pas la même impression, en fin de compte. Après, on va passer page 9, je crois. Et alors, c'est la même différence, en fait, je trouve. Quand, on a le passage en bas de la page 9. The technicians were moving out into the area now, probing cautiously for unexploded fragments. The general and his visitor exchanged a glance that could have meant anything. Alors, c'est cette phrase-là. The general and his visitor exchanged a glance that could have meant anything.
Le général et son visiteur échangèrent un regard incompréhensible.
Le général et son visiteur échangèrent un regard dans lequel on aurait pu lire n'importe quoi.
Donc entre un regard incompréhensible et un regard dans lequel on aurait pu lire n'importe quoi, je trouve
changement
moi, que c'est le même, voilà, c'est le même changement de point de vue, soit c'est du point de vue de l'auteur, enfin du lecteur-narrateur, soit du point de vue du personnage.
Et là, il y a aussi l'économie chez moi, de choisir quelque chose qui soit plus court et qui en même temps a une signification assez proche.
Et tu évites le conditionnel passé qui n'est pas très joli, donc...
Non, mais de toute façon, il y a toujours tout un tas de possibilités. Donc, il faut faire un choix de traduction, quoi. Alors après, vous avez juste un tout petit peu plus bas aussi, dans la même... en bas de la page 9 et début de la page 10. Savage took Hulster's arm in a firm grip. You'd better come with us. You're a valuable piece of property now.
Le général attrapa fermement le bras de Hulser. Vous feriez mieux de venir avec nous. Vous êtes un atout précieux à présent.
Le général empoigna fermement le bras de Hulser. Vous feriez mieux de venir avec nous. Vous valez de l'or à présent.
Donc vous voyez là, vous avez traduit le début de la phrase pareil quand même. Donc là, ça, y a pas tellement d'interprétation. Et a valuable piece of property. Alors pourquoi vous faites des choix qui sont différents?
C'est une expression qui revient deux fois dans le texte. Ouais. Donc déjà ça aussi ça conditionne la traduction. Moi je trouve cette expression qui me l'est très bien.
Et justement comme l'expression revient deux fois dans le texte et que la deuxième fois je trouvais que à tout précieux était plus adapté, je l'ai repris.
Et tu as utilisé deux fois la même traduction aussi.
Oui.
Parce qu'on pouvait...
Mais je trouvais que justement, comme c'est la même personne qui utilise la même expression, c'était intéressant de la reprendre deux fois.
Nous sommes bien d'accord.
Toi aussi, d'ailleurs, tu l'as reprise. Oui. Vous l'avez repris chacun. Alors, juste après, donc c'est la page 10. Alors, on va reprendre. Je vais lire aussi ce paragraphe-là. Hulster's mind came back to the curious conversation between Savage and the visitor after the explosion, and he was struck by the odd sadness in the general's voice. Could he be an old war dog sorry to see it end? Somehow, on looking at the general, that didn't fit.
L'esprit de l'inventeur revint à l'étrange conversation entre Savage et le visiteur, juste après l'explosion, et fut frappé par la curieuse tristesse dans la voix du général. Était-ce la réaction d'un vieux chien de guerre, désolé d'en voir la fin? Pourtant, à le regarder, l'explication ne convenait pas.
Le caporal repensa à la curieuse conversation entre Savage et son visiteur après l'explosion. La tristesse insolite de la voix de son supérieur le frappa. Pourrait-il être un de ces vieux briscards qui regretterait de voir la prendre... je vais la refaire. Pourrait-il être un de ces vieux briscards qui regretterait de voir la guerre prendre fin? À bien observer le général, il avait pourtant du mal à croire à cette analyse.
Alors, là, vous voyez, En anglais, vous avez Holster's Mind. Alors toi, c'est le caporal repensa. Toi, l'esprit de l'inventeur. Bon, là, c'est parce que vous ne voulez pas répéter tout le temps Holster, voilà, faire des variations dans le sujet, etc. Mais on voit que vous l'interprétez différemment. Pour toi, c'est vraiment...
C'est vrai que je n'ai jamais dit l'inventeur.
Non, jamais. Ouais. Et Sarah, souvent, elle l'a appelé
moi,
l'inventeur.
Moi, je l'ai considéré parce que dans sa relation aux autres, particulièrement dans l'extrait, il est là avec son invention, avec sa découverte. Et donc, c'était le mot que j'ai trouvé le plus approprié.
C'est une bonne idée.
Et toi, tu le vois plus comme le
moi, j'étais obnubilé par mes mauvais souvenirs de l'armée, donc caporal.
Et j'ai utilisé chien de guerre, mais ça, je crois que c'est une déformation mourcoquienne. C'est-à-dire que Le chien de guerre et la misère du monde est un de mes romans de Moorcock préférés. Et puis Le chien de guerre est aussi le titre d'un roman de Forsythe qui est assez important dans la littérature de thriller et d'espionnage. Donc j'ai pas pu résister.
Et toi, t'as mis ces vieux briscards.
Moi, j'ai cherché à éviter chien de guerre à tout prix parce que je n'ai pas les références de Sarah.
Toi, tu voulais pas reprendre l'anglais, en fait, c'est ça. Alors, ensuite... Bon, alors, après, il leur explique, donc, une fois qu'ils ont fini de faire le test, le général essaye de briefer l'inventeur, justement, pour lui, qu'il essaye de comprendre les conséquences, en fait, de son invention. Donc, c'est la page 15. Non, il y avait ça d'abord aussi, page 13. Alors, on va peut-être passer à la fin. Ouais. Alors, page 17. Page 17, donc, en fait, donc, il lui explique les conséquences de son acte. Il essaye de lui expliquer les conséquences de son acte. Je ne trouve pas mes références. Voilà. Alors, the general suddenly looked thoughtful. Page 17. Hein. Là, je l'ai reperdu. Oh là là. 17.
Attends, je te donne le texte.
J'arrive pas. Voilà. Ça y est, on va y arriver. The general suddenly looked thoughtful. Holster, a vastly underrated and greatly despised writer in some circles, once said, "There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things." That's a very deep statement, Holster. And there you are, way out in front of your new order of things. I hope for the sake of that child you're going to have, for the sake of all children, that we don't have another war, he shrugged. But I don't have hold out to... Oui, t'as oublié par un rapport, j'ai vu. Mais c'est pas grave. Alors, qui...
Le général eut soudain l'air pensif. Holster, un écrivain grandement sous-estimé et méprisé par certains, a dit un jour... Il n'y a point d'entreprise plus difficile à conduire, plus incertaine quant au succès et plus dangereuse que celle d'introduire de nouvelles institutions. J'ai sauté le paragraphe parce
oui,
que j'ai
voilà, on peut s'arrêter même là.
Ou sinon, j'espère pour votre enfant à venir, pour tous les enfants, que nous n'aurons pas d'autres guerres. Il haussa les épaules, mais je n'y compterai pas trop.
Savage afficha soudain une mine songeuse. Halsa, un écrivain largement sous-estimé et fortement décrié, dans certains milieux, a jadis énoncé ceci. Et on doit considérer combien il n'est pas de choses plus difficiles à traiter, ni dont la réussite soit plus incertaine, ni plus périlleuse à manier, que d'être à l'origine de l'introduction de nouveaux ordres. Avec une petite note de traduction. C'est une observation très fine, Halsa. Or, vous voilà héros audacieux d'un nouvel ordre. J'espère pour cet enfant à naître, et pour tous les enfants, qu'une autre guerre n'éclatera pas. Il haussa les épaules. Mais j'ai peu d'espoir. Et là, je vous donne la note, qui n'est pas, c'est pas une note de traduction vraiment, c'est, je cite ma source. Puisque, donc, c'est une citation, on le sait pas encore, là, à ce moment-là. C'est une citation de Machiavel, que je n'ai pas voulu traduire de l'anglais, et que je n'ai pas pu traduire de l'italien, puisque je ne parle pas cette langue. Et donc, j'ai cherché une traduction, ce qu'on appelle une traduction canonique, qui fait référence, qui fait référence. J'ai trouvé, et donc là j'ai choisi celle de notre confrère Jean-Louis Fournel, associé de Jean-Claude Zancarini. Du coup je continue de me justifier. J'ai trouvé en fait 5 traductions différentes. Et le terme important, donc c'était en anglais, c'est New Order of Things, qui a été traduit suivant les éditions par « Nouvel ordre des choses »,« Nouvelles institutions »,« Nouveaux ordres »,« Nouvelles institutions » dans une autre traduction, ou « Nouvelles règles ». Et là, celle que j'ai choisie n'est pas la phrase que je préfère, c'est pas la formulation me paraît même assez maladroite, mais par contre, on a juste « Nouveaux ordres », sans « choses » que je voulais éviter de répéter. Voilà.
Et alors toi ? Moi, j'ai aussi cherché la traduction de Machiavel que j'ai trouvée chez Wikisource, et je n'ai pas fait de note de traduction parce que c'est une habitude que j'ai prise en travaillant avec le Diable au Vauvert, qui est qu'à partir du moment où l'auteur ne fait pas de note quant à l'origine de sa citation, le traducteur n'a pas à le faire.
Donc c'est pas, tu as quand même pris une traduction existante,
mais
qui n'est pas la même.
Oui, mais dans sa liste de traduction, il y a la mienne. Ouais. D'accord. Dans la liste des différentes versions, il y a celle que j'ai choisie.
Donc ça doit être celle de
Gori, prieur de Marcy. Difficile. Ouais.
Voilà. C'est ça.
Parce que du coup, moi, je pensais que c'était toi que tu l'avais traduit. Du coup,
pas du tout.
Comme
non, j'ai immédiatement vu que c'était Machiavel. J'ai cherché la situation. Et oui, mais j'ai vu la citation, mais c'est une.
Donc c'est juste que tu n'as pas.
C'est-à-dire que, voilà.
J'ai fait comme l'auteur d'origine,
comme j'ai l'habitude de faire. D'accord. Avec les éditeurs avec lesquels je travaille.
Ok. Et alors, pour finir, puisque donc du coup, on arrive à la fin, on va regarder tout à la fin l'épilogue. Et le titre que vous avez donné au livre.
Ah oui, voilà. Juste le titre.
Et puis, on va lire l'épilogue. Alors, many people labor under the misapprehension that the discovery of the Halsa detonator was made in a secret government laboratory. In actuality, the genius of Dr. Lawrence Halsa was first seen on the Arctic battlefields of 1972, where he conceived his idea and where that idea was immediately recognized. Beecher Carlson, c'est peut-être lui l'étranger. Non, parce qu'il s'appelait pas comme ça. The Coming of the Sword, a History of Ancient and Modern Wars.
Nombreux sont ceux qui croient à tort que la découverte du détonateur de Hölzer a eu lieu dans un laboratoire gouvernemental secret. En vérité, le génie du docteur Lawrence Hölzer fut observé pour la première fois sur les champs de bataille arctiques en 1972, où il conçut son idée et où cette idée fut immédiatement reconnue. Beecher Carlson, l'arrivée de l'épée, une histoire de la guerre ancienne et moderne.
Beaucoup de gens s'imaginent à tort que le principe du détonateur Halsa fut découvert dans un laboratoire d'État clandestin. En réalité, ce fut sur les champs de bataille de l'Arctique en 1972 que le génie du docteur Lawrence Halsa s'exprima pour la première fois, lorsque lui vint sa fameuse idée et qu'elle fut immédiatement prise en compte. Beecher Carlson, l'avènement de l'épée, une histoire des guerres anciennes et modernes, volume 6, page 112. Voilà.
Alors déjà, pourquoi je vois par exemple Secret Government Laboratory, Toi, pour toi, il est clandestin, le laboratoire
Oui, c'est un peu bizarre d'avoir un... Le clandestin, c'est justement qui est caché aux yeux de l'État. Mais là, on est vraiment dans le fantasme de l'État tout-puissant.
C'est secret, on ne sait pas, finalement.
Oui, c'est une interprétation. Oui
là, pour moi, c'était... C'est par rapport à la théorie du complot et les fameux laboratoires secrets de l'État, etc. C'est surtout à ça que j'ai pensé.
Oui, bah, moi aussi, oui. Mais effectivement, oui, il y a une... Ouais.
Bon, ben voilà le titre.
Et pour moi, clandestin aurait voulu dire que ce n'était pas l'État.
Oui, c'est ce qui... Ouais. Donc, ouais, je te rejoins, c'est sur secret. Ouais.
Bon, en fait, voilà. Il faut donc choisir. C'est tout, en fait. On arrive à cette conclusion. Et le titre, voilà. Donc, c'est finalement... The coming of the sword, l'avènement de l'épée, l'arrivée de l'épée.
Je trouve que ton titre est meilleur.
Cher concert, merci.
En tout cas, ben non, vous avez chacun pris une traduction différente. Et je trouve que les deux traductions sont très bien, chacune dans leur style. Donc voilà, alors bon, si ça vous intéresse de voir ça plus en détail, parce que là, c'est vrai que voilà, vous n'avez pas vraiment le texte sous les yeux, que c'est quand même pas évident comme ça.
Il traduit Nicolas Machiavel.
Oui, et toi,
et moi, je suis toujours dans Niccolo Machiavelli. Voilà. Mais ça, c'est moi. Je trouve que les gens doivent garder leur nom. De la même manière, c'est contre personne. Mais je ne m'appelle pas Sarah Doc. Je m'appelle Sarah Doc. Il suffit de penser à Coke. C'est exactement le même mot. C'est juste la première lettre qui change. Et donc, la prononciation est la même.
Tout dépend de quelle région on vient.
C'est un nom d'origine irlandaise.
D'accord.